Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
13e podcast de la saison de Cyclocross. Messieurs, et comme la semaine dernière, il avait été brillant, voici Anthony Colas.
Ouais, ça va beaucoup mieux, ça va un peu mieux. J'étais malade la semaine dernière, j'ai toujours pas d'écouteur, donc j'ai qu'un pauvre casque, un pauvre écouteur que d'une oreille, mais j'espère que le son sera meilleur, mais en tout cas, je suis guéri.
Mais bah excellent, très bonne nouvelle, il avait été médiocre, mais on le reprend quand même. Steve Chenel est là.
Bonsoir à tous. Oh, ça fait plaisir d'entendre la vraie voix de mon Tonio. Ah, Tonio, la semaine dernière, j'ai cru que t'avais bâché.
Ah, j'étais malade la semaine dernière, j'étais mal foutu, puis j'avais des écouteurs. Je pense que les écouteurs ont fait aussi. J'ai pas réécouté pour être honnête, mais je pense que les écouteurs étaient pour beaucoup.
C'est vraiment de la merde.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Si je vous dérange, vous me dites, hein, je mets en mute, puis vous faites votre petite tambouille tous les deux, puis je reviens dans une demi-heure.
Allez, vas-y, parlons du France.
Allez, parlons du France. Mais qui va parler du France en premier? C'est toi, Steve, qui l'a commenté, donc c'est toi qui vas avoir la parole en premier. On attendait Clément Venturini, il s'est imposé. Victoire logique, malgré tout, même s'il a dû batailler jusqu'au bout. Comment tu analyses a posteriori ce qui s'est passé?
Bah écoute, oui, victoire logique. C'est vrai que, comme l'a dit Clément d'ailleurs sur ses interviews d'après-course, et je trouvais son intervention tellement ventue, quoi, tellement vraie. C'est vrai que quand t'es champion de France sortant, l'année d'après, si tu gagnes pas, bah c'est la désillusion, t'en prends plein la tronche. Par contre, si tu gagnes, bah en gros, t'as confirmé ton titre, donc c'est la normalité. C'est vrai que dans le sport, il n'y a pas de normalité, hein, mais on l'attendait tous. Je pense qu'il avait la pression. Rappelons quand même qu'il a fait quasiment sa première sortie avec le maillot Arkéa BNB Hotel, en tout cas sur les terres bretonnes, avec un staff qui était complètement acquis à sa cause, avec un bus, avec le déplacement de tout du personnel de qualité. Donc, il avait la pompe et il a très, très bien couru. Très, très bien couru. Il a couru à la ventue. Et il a été tout simplement une petite dent au-dessus. Je pensais quand même que dans le dernier tour, Joshua allait tenter le tout pour le tout avec au moins le passage de planche. Mais finalement, Ventu a répondu présent. Il va chercher un très beau cinquième titre. Qu'on le veuille ou non, c'est un très, très beau champion de France.
L'année plus 1, petite parenthèse en donnant la parole à Ventu, tu avais fait combien en 2019?
Il n'y a
pas de vanne, hein, c'est une vraie question.
Je sais même plus.
Bon, bah, tu chercheras, puis tu nous diras. Anthony, t'as pu regarder un Pôle France parce que t'étais sur tous les fronts, j'ai l'impression. Tu nous as envoyé des messages pour la Belgique, pour les Pays-Bas. Tu nous as fait un peu un multiplex.
Je suivais la Belgique, ouais. J'avais les Pays-Bas surtout. Je suivais les Pays-Bas, je suivais la France, un peu la Belgique, un peu tout. Bah, la France était un peu décalée d'ailleurs. Ils avaient un horaire un peu bizarre, mais bon. Je me suis dit, on finira à la torche du côté de Camor, mais ça a été. Non, j'ai suivi un peu. Bon, les Pays-Bas, c'était pas. On en parlera, je pense, après, mais. Devenu s'est baladé, on a eu un triplé de la Baloise. Pour revenir au championnat de France, oui, on a eu un peu de suspense parce que Joshua l'a bien joué aussi de son côté. En essayant de pousser un petit peu nerveusement, on va dire, Ventu.
C'est ça.
À pas le relayer, il a demandé plusieurs fois. Bon, après, il y a ce petit ennui mécanique où Joshua, du coup, il tente. Hein, de toute façon, il a raison de tenter. Moi, j'y croyais un peu plus. Franchement, je croyais visuellement. Je voyais Joshua capable de faire peut-être un peu la différence. Je le voyais assez à l'aise. C'est vrai que c'est un gars qui ne monte pas trop au niveau du visage, au niveau du faciès, s'il est dans le dur ou pas. Mais moi, je le pensais un peu plus costaud. Et c'est vrai qu'en Ventu, bah, c'est pas affolé. Et c'est là aussi qu'on voit la qualité d'un champion. Il a remis sa chaîne tranquillement et puis il est quand même assez rapidement revenu. D'ailleurs, il n'a même pas mis un demi-tour, je crois, à revenir. Voilà, bon, bah, non, il a pas bien évidemment pas volé son titre. Il a fait preuve de beaucoup de sang-froid à ce moment-là. Il est revenu. Et après, là, ouais, peut-être la petite erreur de Joshua de pas retenter sur les planches et vraiment d'attendre le sprint. Bon, il était battu de toute façon au sprint, on le savait, hein, face à Venturini. Voilà, moi je pensais que vraiment il allait tenter le tout pour le tout sur les planches, mais bon, il l'a pas fait.
Après, là où il a raison, Tonio, c'est que quand Joshua tente son, on va dire, de sortir sur ennui mécanique de Clément, parce que ça fait partie du jeu, s'il n'arrive pas à passer à la cloche avec 7-8 secondes, c'est-à-dire à maintenir l'écart, bah c'est clairement que Ventu était meilleur physiquement que Joshua, parce que à ce moment-là de la course, c'est le seul moment où ils étaient un petit peu en un contre un, un petit peu face à leur destin. Donc, non, c'est un beau champion de France. Moi aussi, je suis assez d'accord avec Tonio. Au niveau du faciès, je pensais vraiment qu'il se baladait, Joe. Je pensais qu'il allait attendre vraiment la petite erreur technique ou le petit truc pour sortir. Mais finalement, je crois que ça roulait tellement vite qu'il n'a pas pu prendre la poudre d'escampette. Donc, bravo à Clément.
Steve, d'après toi, qu'est-ce qui manque à Joshua Dubo pour atteindre le niveau de Clément Venturini? Alors évidemment, Venturini, il fait beaucoup de routes, il a peut-être un petit peu plus de caisse, mais Joshua Dubo a fait une super saison de VTT, il espère être à Paris pour les Jeux, même si ce sera difficile au niveau des quotas. Elle se fait où la différence? C'est la valeur intrinsèque des deux garçons? C'est la préparation? C'est la courbe de forme du moment? Ça se fait où?
Bah, ça dépend vraiment des circuits, et je sais pas si Tonio sera de mon avis, mais Camor, il fallait surtout beaucoup d'explosifs. Et beaucoup de, comment dire, de giclettes, hein, de punch. Et on sait que Joshua, bah, malheureusement, c'est pas son fort. Si Camor avait été beaucoup plus, sur un terrain beaucoup plus lourd, avec des parties pédestres beaucoup plus longues que ce qu'on avait, avec même des parties dans le champ, tout à pied, je pense que Joshua aurait été un cran au-dessus. C'est deux coureurs qui se valent, mais c'est deux coureurs qui se valent sur des circuits totalement différents. C'est pour cette raison que sur Camor, ça roulait vite, les qualités de routier étaient plutôt mises en avant, alors que quand c'est des qualité plutôt de vététiste, voilà, où ça roule peut-être moins vite, où on est vraiment à haute intensité sans vraiment faire de petits sprints, bah Joshua est meilleur. Donc après, sur la qualité intrinsèque, franchement, c'est deux coureurs qui se valent, mais Ventu a surtout plus d'expérience et plus d'explosivité.
D'accord avec ça, Anthony?
Ouais, clairement, fallait de la cuisse de toute façon du côté de Camor, c'était quand même assez roulant, même si la veille c'était plus gras apparemment. Bon, on avait eu quelques images sur le, on pouvait suivre les courses. La veille c'était un peu plus gras, là c'était quand même assez roulant. Et comme l'a dit Steve, oui, c'est vrai que de toute façon on le voit, je sais pas, quand il relance, il y a pas énormément de giclettes, il fait des longues relances qui font d'affaires d'ailleurs très mal, je pense. Mais voilà, il a quand même un coup de pédale du vététiste, si tu veux, où il va faire des efforts assez longs, tu vois, il a pas cette giclette que peut avoir Venturini. Oui, plus gras, je pense que ça aurait été différent. Mais bon, Ventu, il a quand même le métier, et je reviens encore à cet incident mécanique. Si tu veux, il panique pas et il reste dans sa course, il remet sa chaîne. On est à un tour et demi de la fin d'un championnat de France. Il a attendu, comme l'a dit Steve. Il panique pas, il remet sa chaîne, il revient assez rapidement, et je crois que l'écart a jamais pris plus de 10 secondes malgré le pépin. J'ai tout de suite pris le chrono pour voir si Joshua était capable de faire l'effort, mais jamais c'est monté au-dessus de 7-8 secondes. Donc je me suis dit non, il est en train de gérer, il va gérer son retour, et il revient directement, je crois, à la fin du tour. Donc oui, il aurait fallu un parcours plus gras peut-être pour voir un Joshua un peu plus à son avantage. Mais après, non, je pense que Ventu
était dans un grand jour.
Il était dans un grand jour, et puis il a fait parler aussi le métier. Il a fait parler la cuisse, et il a fait parler le métier. Voilà, le métier.
J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur Clément Venturini, parce que ça fait quand même plusieurs années que c'est notre meilleur représentant, surtout depuis que Steve est à la retraite. vous me parlez de ses qualités mentales. Il a fait jouer le métier. Il a fait top 5 d'un championnat du monde récemment. Je crois que c'était Fayetteville, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous considérez qu'en ne donnant pas forcément la priorité au cyclocross, comme ont pu le faire Van Der Poel, Van Aert et compagnie, que Venturini est passé à côté potentiellement d'une grande carrière au niveau international, au niveau peut-être, je sais pas moi, d'un Iserbeat ou d'un Lorenzo Egg pour faire plaisir en toi.
Moi, je pense que oui. Mais après, si Steve veut se lancer dessus, moi, je pense que oui, et je pense que Steve fera mon avis. Il fait partie d'une certaine flopée de coureurs. J'en ai d'autres à l'esprit. Alors, je vais pas les citer parce que je veux pas, voilà, après. Mais il fait une partie d'une flopée de coureurs qui marchait très fort chez les juniors, chez les espoirs, et puis, qui sont, je suis content pour eux, hein, qui sont passés professionnels sur route, mais qui ont été dans des formations où le cyclocross n'était plus la priorité. Et même pour avoir des petits ragots qui courent, certaines équipes, et je pense que Steve pourra le confirmer, où on leur demande de faire, on leur dit clairement, le cross c'est terminé, quoi. En gros, maintenant Ventu, ça fait 2-3 ans qu'il y est revenu. Je dis pas de bêtises, parce qu'il s'est rendu compte finalement que les années où il avait refait du cross, il remarchait dans les sprints sur route. Donc là, c'est vrai qu'il maintenant il y revient. Voilà, il revenait chez AG2R. Maintenant, il est revenu dans une équipe bretonne où on sait qu'il y a quand même quelques crossman. Il y a quand même eu des crossman. Donc, je pense qu'il y aura peut-être un peu plus de facilité. Mais oui, pour moi, on a loupé. Et Venturini en fait partie. Et j'ai d'autres noms en tête qui avaient de quoi faire des belles choses chez les élites en cyclocross.
Évidemment, 100% d'accord avec Tonio. Et moi, au lieu de tempérer comme l'a fait Tonio, je pense que c'est un problème français depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, le seul qui avait vraiment l'étiquette de cyclocrossman et qui l'a eu toute sa carrière, c'est Francis Mouret. Francis Mouret avait un planning de route qui était complètement adapté en vue du cyclocross. Et c'est d'ailleurs le seul, c'est d'ailleurs la dernière médaille mondiale au niveau international chez les élites hommes. Et c'est la raison pour laquelle il était capable de jouer avec les Belges. Donc pour moi, Ventu, effectivement, faisait partie de ces talents, de ces coureurs hyper talentueux, comme Quentin Jauregui, comme Yann Gras, comme Antoine Benoît, comme tant d'autres qui ont été chercher des médailles chez les jeunes, comme Thomas Bonnet. Toi, moi, je pense à Thomas Bonnet, par exemple, qui est chez Total Energy, qui avait des qualités indéniables, champion du monde de VTT, pour faire exactement ce que
Doubet aussi,
Fabien Doubet. Bien sûr, tous ces coureurs, crois-moi, s'ils avaient été belges, pas certains qui seraient partis sur la route, et je pense que ce seraient aujourd'hui les coureurs de la Powells, de la Trek Baloise, de toutes ces équipes qui font le jeu des équipes hivernales pendant l'hiver. Donc non, Ventu, gros talent, gros potentiel, grosse explosivité, mais peut-on reprocher à un coureur de partir sur la route pour gagner sa croûte?
C'est pas un reproche que je fais, moi j'ai jamais fait.
Moi non plus.
Mais on a des regrets parce qu'on est passionné de cross et que on aimerait que nos jeunes y continuent. Là, on prend l'exemple de Bizio. Je pense que t'es comme moi. On voit ce qu'il est capable de faire. Il y a quelque chose à faire. Parmi tant d'autres. Mais quand tu vois nos juniors français qui arrivent à peser, à faire, quand ils mettent les 6 dans les 10 du côté de Namur, dans les 9 même, ça cause.
Donc, est-ce qu'on est obligé, Anthony, d'adapter forcément les programmes? Steve me dit, Mouret, il avait un programme adapté sur la route. Si on met de côté Van Der Poel, Van Aert, c'est des extraterrestres, personne ne réagit comme eux, etc. Mais
ils ont tous des programmes adaptés.
Oui, mais quand je regarde un Gianni Vermeersch, un Florian Vermeersch, ils passent de la route au cross, ils viennent quand ils veulent. D'ailleurs,
ils sont pas ridicules, c'est des très grands.
Vermeersch, il fait deux à Luna Out.
Il y avait pas
grand monde, mais il était là.
Gianni Vermeersch, Jérémy, c'est un faux exemple. Vermeersch, il est parti sur la route, il est passé pro à 25 ans. Il a fait que du cross avant. Il a toujours fait que du cross. C'est devenu un routier parce que il a été chez Alpecin et c'est un pote avant Van Der Poel. Mais il gagne autant sa croûte aujourd'hui sur la route qu'en cyclocross. Et c'est juste qu'il a changé de fusil d'épaule. Gianni Vermeersch, crois-moi, s'il était pas chez Alpecin et le planning qu'il fait sur route, il ferait autant de cross qu'un Van Der Poel ou qu'un Nils Van de Put. Hein. Il serait dans l'équipe 3, dans l'équipe continentale et il ferait du cross. Hein.
Donc c'est possible.
De quoi
parce que là, on parle de Vermeersch, mais Quinton Hermans, par exemple, c'est pareil. Il en a fait au moins 7 ou 8 des crosses cette année.
Ouais, mais il a pas pesé. Jérémy, il fait des crosses pour venir prendre un petit peu, pour faire un peu plaisir, pour s'en.
Prendre de l'oseille, tu peux le dire aussi. Vas-y.
Pour s'entretenir, tu vois. On va pas se leurrer. Nous, si on parle de gars capables de venir jouer avec T3, de jouer avec des Iserbeats toute la saison ou autre. C'est ça que nous on veut que okay. nos crossmen soient capables de faire. Et le seul, comme a dit Steve, et on le sait, et Francis, ils sont jamais. De toute façon, à la FDJ à l'époque, c'était, il y avait pas de secret. Le titre, enfin l'objectif c'était le titre mondial.
C'est clair.
Ils ont laissé Francis, je crois, 10 ans presque en tout, peut-être même plus, mais ça a duré des années où voilà, on mettait vraiment tout parce que on savait que Francis Mouret avait les capacités. Maintenant, ça n'a jamais mis au fond, mais voilà, c'était Steve, tu as fait raison, il avait un programme de course toute l'année. On c'était un coureur, si tu veux, dans les 30 coureurs de la World Tour. Enfin, à l'époque, c'était pas la World Tour, c'était la Pro Tour, je sais plus comment ça s'appelait. C'était voilà le seul coureur qui avait on dégageait un coureur, mais parce que c'était Francis Mouret. Mais aujourd'hui, alors je jette pas l'éponge, on en a déjà parlé. Jette pas la pierre, pardon.
C'est quand t'abandonnes.
Mais les équipes, ils ont aussi besoin de tous leurs coureurs, parce qu'ils ont des calendriers tellement longs. Ça a repris sur la route, et puis ça va aller jusqu'au mois d'octobre. Donc ils ont besoin de leurs 30 coureurs, de leurs 25 coureurs. Je suis d'accord. Mais voilà, enfin c'est on en revient toujours au même discours en fait, ça fait
des
années.
Je comprends pas pourquoi Alpecin met 3-4 gars chaque année au cyclocross en faisant, alors certains pèsent et d'autres moins, mais c'est la preuve que c'est possible, et derrière ils ont pas de problème maintenant, ils sont dans le tour.
C'est parce qu'on n'a pas la même mentalité en France.
D'accord, donc parce c'est que pas c'est un problème
c'est
un, physique.
Je pense que c'est un problème de mentalité. Alors les choses évoluent un petit peu avec, grâce d'ailleurs à des Van Der Poel, des Van Aert et des Pidcock qui prouvent qu'on peut faire les deux et que ça peut être compatible. Mais c'est encore du mal
Et puis surtout là où ce que tu dis par rapport à des mecs comme Alpecin, faut quand même s'imaginer que toute la saison sur route, l'équipe continentale Alpecin de Koenig, par exemple, un Emil Verstringe par exemple, il est dans l'équipe Alpecin de Koenig continentale sur route, mais on le met dans une autre structure en cyclocross pour l'hiver. Sauf que son programme avec Alpecin de Koenig sur route, il est fait pour qu'il soit performant pendant l'hiver. Et c'est ça la grande différence avec nos équipes françaises, c'est que arrivé la saison route, eh ben t'es au Tour de Ray-Loire. Non, le Tour de Ray-Loire, il faut aller le gagner. Sauf que les crossman, ils sont là pour faire quoi? Pour faire des kilomètres, pour faire des efforts, pour faire des 30 secondes, pour faire des sprints, uniquement en vue de l'hiver. Donc forcément que la différence de préparation et la différence de compétition sur route est hyper notable quand arrive l'hiver en cyclocross. Donc c'est une culture qui est différente. C'est une culture différente. Et encore une fois, nous les Français, on n'a rien à inventer. Hein. On les a les potentiels. On les a les mecs qui font ça. On n'a rien à inventer. On a juste à copier ce qui se fait en Belgique. J'ai voulu le faire avec le cross team. Malheureusement, bon, voilà, ça n'est pas reparti. Ça manquait de pognon, d'enthousiasme, tout ce que tu veux. Enfin, peu importe. Mais je pense que tous les coureurs qui sont passés par le cross team, Antoine Benoît, médaille de bronze au championnat du monde, Yann Gras, médaille de bronze au championnat du monde, Michael Crispin, champion d'Europe chez les espoirs, tous ces coureurs-là avaient la possibilité de devenir des Elise Herbit, s'y continuaient dans une vision qui était de continuer à faire du cross de haut niveau. Malheureusement, ils sont tous partis ailleurs, à droite, à gauche, dans des DN1 avec du pognon, un autre chez Alpecin. Et résultat des cons, il n'y a plus un qui fait du vélo quasiment aujourd'hui, si ce n'est Michael. Donc c'est triste, mais le constat, il est là. Et je pense que Tonio a exactement le même constat que moi. Donnez 500 000 à Tonio, donnez-moi 500 000. On fait tous les deux une Conti, mon Tonio, à 1 million.
On fait une grosse Conti.
Une grosse Conti, et puis on en fait qu'avec des crossman.
Ah oui. Voilà. Avec un million, on fait pas mal de trucs. Hein.
Ah bah tu m'étonnes.
Et vous allez le trouver où, le million?
On compte sur toi, Jérémy.
Bah ouais, on compte sur toi avec ta grande gamelle.
Bon, c'est un peu éloigné du sujet de base parce qu'on était quand même sur les championnats à la base. Steve, on va conclure sur la France. Juste un mot quand même sur les dames avec la victoire d'Hélène Clauzel. On n'en doutait pas trop. Elle a assumé son rang.
Oui, elle a assumé son rang. Elle est tombée sur une Amandine Fouquenet qui avait tenté de faire le départ et de l'esseler, de lui mettre un petit coup psychologique là-dessus, mais je crois qu'Hélène a très bien répondu, et puis derrière elle a fait valoir ce qu'elle sait faire, hein. C'est une vététiste, elle, avoir 15 secondes d'avance, puis après elle a creusé. Non, c'est pareil, c'est un titre mérité, elle a été très régulière tout au long de l'année, donc chapeau elle.
On va passer à la Belgique parce qu'Anthony, la semaine dernière, c'est vrai que tu étais un petit peu malade, mais tu nous avais quand même dit attention à Sanocant, elle est pas favorite parce qu'il y a Verdonciot qui est en super forme, etc. Mais c'est un jour de championnat, elle a l'expérience, elle sait s'y prendre. Résultat, 15e titre consécutif.
Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand on y repense. Et le truc que je suis en train de penser, moi, après, c'est qui va pouvoir, enfin, qui va pouvoir la battre, mais même dans j'ai envie de penser dans d'autres pays, quoi, en fait.
C'est énorme. C'est comme Nadal à Roland Garros. C'est un record qui peut tenir des années.
Mais j'ai partagé sur Instagram, il y a un petit réel qui a été fait avec, mais tu la vois tous les ans avec la tête qui change. Alors, les premiers, elle a une tête de gamine, mais c'est un truc de ouf. Tu te rends compte, la longévité. Oui, longévité.
La longévité, ça suffit.
La longévité, pardon, excuse-moi. Ouais. Excusez-moi.
La jonfétiguivité.
Non, mais c'est un truc de ouf. 15 titres d'affilée, c'est respect. Et alors, ouais, j'ai pas vu toute la course des filles, mais j'ai vu quelques extraits. Elle s'en est mis, en plus, elle s'est mis un peu des bâtons dans les roues, parce que je crois qu'elle est tombée à plusieurs reprises. Enfin, et puis elle arrive avec pas tant d'avance que ça, parce que je crois que sur la photo, on voit Verdonchot derrière. Donc, je pense que là, encore une fois, c'est un peu comme Ventu. Je pense que voilà, le palmarès, le métier à parler, et jour de championnat, on l'a dit, il faut que tout soit aligné, mais faut aussi avoir de la bouteille, du sang-froid. Et je pense que malgré les chutes, elle a mis au fond, et grand respect, parce que 15 titres d'affilée, je veux dire qu'on n'est pas prêt de le voir, que ce soit chez les filles, chez les hommes, dans un autre pays, la Belgique ou ce que vous voulez. Je pense qu'il va falloir que ça va tenir un moment.
Après, là, moi, où je retiendrai surtout, c'est quand même aussi ses propos d'après-course, où elle a annoncé quand même que 15 titres, ça faisait un chiffre rond, que c'était génial de pouvoir courir avec le maillot national, et pas sûr qu'elle soit au départ des prochains championnats de Belgique, ou en tout cas, elle a laissé sous-entendre qu'elle prendrait quand même sa fin de carrière l'année prochaine.
Quand elle a 15 titres de championne nationale, 3 titres de championne du monde, je pense que c'est bon, là, elle peut replier et elle a un sacré palmarès.
Après, si en plus c'est pour finir comme Lyon, qui a été 10 fois de suite champion de France, je me dis que c'est vrai qu'il faut mieux s'arrêter avant.
C'est 7 fois, tu vois, donc quand tu essayes de faire des vannes, essaye de les faire proprement. chez les gars, victoire d'Isorbit, tiens, garde le crachoir, Steve, sur Isorbit. Ouais. C'est son premier titre en Belgique, il a déjà été champion d'Europe, mais il n'avait jamais été champion de Belgique. Est-ce que c'est le plus beau des champions possibles? Il succède à Van Torenhout.
Ouais, non, clairement, hein, c'est pour moi celui qui a été le plus régulier tout au long de l'hiver. Et c'est vrai qu'il méritait un jour de porter ce maillot de champion de Belgique, d'autant plus que la porte, malgré tout, était quand même bien ouverte, le fait que Wout ne soit pas au départ, parce qu'on le veuille ou non, si Van Aert avait été au départ, ça aurait été lui le favori. Et peut-être, mais comme les absents ont toujours tort, le champion de Belgique. Mais non, c'est un très, très beau champion de Belgique. Ça fait quand même depuis 3-4 ans, hein, depuis qu'il est sorti de chez les Espoirs d'ailleurs. Hein, il n'a pas eu beaucoup de temps d'adaptation en élite. Il a tout de suite marché. Pour moi, c'est quand même, pour moi, le plus régulier et le numéro 1 derrière le trio fantastique. On l'a déjà même souvent vu bagarrer avec Pidcock, prendre même le dessus des fois sur Pidcock. Non, c'est un très, très beau champion de Belgique. Je suis très content pour lui.
Anto, dans nos messages, là, il y a Ben qui nous dit « Felipe Hort, il peut en faire 15 en Espagne. » Ouais, mais Felipe Hort, il est à 6 et il a déjà 28 ans, donc ça ne sera pas simple. Hein,
je te dis, j'ai regardé un peu, j'ai commencé à chercher, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Et pour revenir rapidement sur Isorbit, alors moi, je n'avais jamais fait gaffe qu'il n'avait pas été champion de Belgique. J'en étais même étonné. Alors, c'est vrai qu'il a été champion du monde espoir, champion d'Europe élite. Et moi, je trouve que c'est mérité parce que, comme l'a dit Steve, bon, il a titillé, il a joué avec… Avec les Van Aert et Pidcock ces derniers temps, puis nous rappelons que quand même il y a 10 jours de ça, 10-15 jours, il a passé 2-3 jours pas bien, donc oui, il a profité un peu de l'absence, on peut le dire peut-être, de Wout, mais voilà, je pense que c'est une belle récompense pour lui, et puis on va enfin revoir, alors peut-être qu'on peut lui souhaiter mieux du côté de Tabor, mais on va enfin revoir le meilleur champion de Belgique.
Ça c'est vrai.
Pendant au moins quelques temps. Peut-être.
Parce que l'année dernière, on rappelle quand même que Van Torenhout avait dit ouais, je vais faire un peu ma sauce, je mettrai plus souvent le maillot de champion de Belgique, sauf qu'il y a des règlements
et il s'est enflammé.
Il a pas pu faire ce qu'il voulait. Par contre, il avait un vélo de chacun. Hein. Il avait un vélo de champion de Belgique.
Ça, il peut. Mais le maillot, tu choisis pas. L'Europe est au-dessus de la nation, donc.
Mais ça l'a pas trop dérangé puisqu'il est allé gagner. Et
il a été récupéré cette année. Non, mais c'est voilà. Après, ça fait aussi deux maillots du côté de la Powell. On va revoir le maillot de champion de Belgique.
C'est très bien, ouais. C'est très, très bien pour Isorbit qui voilà, vraiment est un très, très bel ambassadeur du cyclocross. Voilà, quand il y a eu les petites affaires avec la Coupe du Monde qui partait en latte et tout, ça a été l'un des premiers à me faire un petit message pour essayer de discuter avec l'UCI. Pour moi, c'est un bel ambassadeur du cyclocross.
Oui, et surtout, on rappelle Steve, Isorbit, c'est un des rares qui court quasiment toutes les coupes du monde, qui vient même à Flamanville quand il n'y a pas grand monde. Il respecte le calendrier, il respecte les spectateurs. Et c'est vrai que c'est normal de temps en temps d'avoir un retour d'ascenseur. Derrière lui, par contre, il y a eu des déceptions. Thibaut Nace à l'envers, comme d'habitude. Je parle même pas de Lorenz Weck. Quinton Hermans, très loin, à plus de 2 minutes. Alors, j'ai cru comprendre qu'en Belgique, on commençait un petit peu à s'inquiéter en vue de Tabor de ne pas avoir de coureur sur le podium du championnat du monde, surtout si Wout n'y va pas, évidemment. C'est un scénario qui est envisageable, ça. Ce serait une première depuis une éternité. J'ai plus en tête, mais ça fait des années. S'ils orbitent, passent à côté, il y a danger, non ?
Non, mais alors, c'est vrai que la question a été posée hein, par Rodrigo à Gérard Bellens, le consultant, et effectivement, il a exprimé sa crainte d'être, de voir un podium à Tabor sans Belge. Mais ça fait quand même quelques années qu'on n'est pas loin hein, d'éjecter un Belge si t'enlèves Wout Van Aert. Parce qu'il faut être complètement transparent. Van Aert a souvent sauvé la mise, il a été chercher des titres, ok. Mais si t'enlèves Van Aert derrière, il y a toujours eu de la grosse concurrence. Donc, pour moi, la petite problématique qui a été soulevée, c'est juste parce qu'il n'y a pas Van Aert au départ. Et on compte évidemment sur Iserbeet, sur Van Turenhout pour aller chercher une breloque. Je sais pas si Tonio sera d'accord avec moi, peut-être que Olivier pourrait aussi intervenir, je sais pas comment ça se voit en Belgique, mais je pense que du côté de la stratégie de l'équipe belge, on va pas à Tabor pour une simple médaille. On va aller à Tabor pour le titre parce que collectivement bien sûr Van der Poel c'est l'archi favori, mais s'il y a de la neige, je serais pas surpris de voir un Nils van de Put essayer de faire le maximum avec un Van Turenhout derrière.
Il est néerlandais.
Mais c'est vrai que si terrain sec il est exactement comme c'était le championnat de République tchèque cette année, parce que moi je l'ai regardé et c'était sur le même circuit, c'est Boros qui a gagné. Oui, ce sera compliqué d'aller battre Van der Poel. La médaille, il faudra des circonstances de course, mais je pense que ça va être très 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 ouvert, hein. Très ouvert.
Si, on va donner la parole à Anthony et puis évidemment à Olivier qui nous a rejoint. Juste par rapport à ce que tu viens de dire sur les dernières années, même si tu enlèves Van Aert, tu as toujours un autre Belge sur le podium. Tu as Iserbeet, tu as Tonnart sur les 5 dernières années, tu as Van Turenhout en 2018, tu as Kevin Powell en 2016-2017. En fait, pour revenir à 2015.
Ouais, mais attends, tu as des mecs de championnat là. Quand tu as cité des mecs, t'as un mec comme Kevin Powell, c'était un mec qui a toujours fait une saison. C'est un mec de championnat, ce mec-là.
Peu importe.
Là où aujourd'hui, moi, oui, j'aurais, on va voir ce qu'Olivier veut nous dire, mais moi, j'aurais des craintes du côté de la Belgique.
Normal, écoutez, vas-y, Olivier, non. Dis-nous un petit peu
ce qu'Olivier va nous dire. Moi, clairement, oui, je commence à avoir des craintes.
Salut, Olivier.
Il est muté.
Il faut te démuter, Olivier, si tu veux intervenir.
La régie est bloquée sur la Belgique.
Ah ouais, je crois qu'il doit neiger en Belgique. Le réseau doit être paralysé. J'essaie de retrouver la dernière fois qu'il n'y a pas eu de Belge sur un podium. Là, j'ai le palmarès sous les yeux. C'est loin, hein, c'est loin. Là, je remonte.
En plus, Iserbeet, j'ai pas ses résultats du côté de Tabor, mais
97, je crois, hein, dernière fois qu'il n'y a pas de Belge sur le podium.
Je suis pas sûr que ce soit un circuit qui colle vraiment dans ces. Voilà. Assez loin, Olivier, on t'entend, mais assez loin.
Olivier, c'est bon. Il est en voiture.
Non, il faut se garer, Olivier.
Il y a de la neige partout et il y a des trains qui sont supprimés. Donc là, j'ai 1h30 de retard sur ce que je dois faire.
Olivier, on t'entend pas. Il va falloir, retrouver du réseau.
Bon, on l'entend pas. On l'entendra pas, je pense. Iserbeet, il avait gagné à Tabor, tu vois, je suis en train de dire.
Au championnat du monde ?
Non, en Coupe du monde, on a gagné à Tabor en 2022.
Non, mais de toute façon, on va se poser des questions. Le fait qu'il n'y ait pas Van Aert qui soit là pour essayer de contrecarrer les plans de Van der Poel. Et puis derrière, c'est vrai qu'on a eu l'explosion de Renard et Nieuwenhuis. Le conduit a été aussi, bien hein. fait. Donc, il y aura un beau championnat du monde, c'est sûr.
Si quelqu'un d'autre veut intervenir, parce qu'Olivier, ça ne marchera pas visiblement et qu'il y a des avis, n'hésitez pas, on le dit à chaque fois.
Bien sûr.
Demander la parole, on n'est pas là pour.
Non.
Si, comme ça, on. Plus on invite de monde, moins on entend Steve. Hein. Donc, quelque part, on est aussi un peu gagnant. Alors, on va parler des Pays-Bas. Ça te tenait à cœur, Anthony, les Pays-Bas. Alors, tu m'avais mis une petite boîte la semaine dernière. C'était de bonne guerre. Hein. Ah oui, le championnat des Pays-Bas femmes, il te hype. On sait d'avance que c'est Peters qui va gagner. Steve m'avait dit, Brandt, je ne sais même pas si elle va courir. Le samedi, elle va faire les recos, elle va rentrer chez elle. Résultat, bam!
Non, c'est vrai, on s'est fait tréfler là-dessus, mais en beauté. Hein. Mais
est-ce qu'elle a vraiment le nez pété?
Ouais, ah, je pense qu'il est un peu bleu quand même. Il a un peu bleu quand même. Mais en plus, je sais pas si vous avez regardé quelques images. Moi, j'ai regardé un peu.
Ah, alors, oui. Elle s'est baladée.
Elle, non, mais t'as vu les descentes qu'il y avait et tout. Franchement, c'était fallait un gros cœur pour parler poliment. Moi, j'avais vu les images de la recoupe. Donc, du coup, ça m'avait un peu. Je m'étais dit, bah là, non, attends, elle va avoir des. Elle va pétocher un peu, elle va dépéter. Et ben non, elle s'est pas dégonflée. Elle a laissé faire un peu Peter son début de course et puis après elle a mis en route et puis terminé. Non, moi je l'avais vraiment pas vu venir. Bon, on savait qu'elle marchait quand même parce que du côté de Zonhoven, avant de tomber, elle mettait Peter ça à quoi 15-20 secondes et ça rentrait pas. Donc on savait qu'elle marchait. Maintenant. Moi, je pensais vraiment que la chute, déjà, le nez serait pu la gêner dans un premier temps, mais je pensais clairement qu'elle aurait un petit peu de retenue dans la descente. Et vraiment, elle a fait 2-3 descentes très limite encore une fois, parce qu'elle est souvent assez limite, mais il n'y a pas de retenue du tout, quoi. Donc, non, vraiment, un grand coup de chapeau à elle. Elle m'a bien bluffé, nous a bien eu.
Steve, tu veux rajouter quelque chose?
Non.
Très bien. Alors, on va pas passer à la course des garçons. On va quand même préciser qu'elle bat Peters, qu'Alvarado n'est pas sur le podium.
C'est surtout pour ça que j'ai pas réagi. Je suis voilà. Dégoûté que c'est
elle. Alvarado, je sais plus qui la dernière fois, je crois qu'il y a pas le podcast de la semaine dernière, mais celui de la semaine d'avant, il y a quelqu'un qui a dit, je pense qu'elle a passé son pic de forme. Et en fait, ouais. Quand on regarde bien, je suis tout à fait d'accord. Je sais plus qui avait dit ça.
Non, mais moi j'avais dit que son mal de dos c'était oui c'était du pipeau la Coupe du Monde le lendemain. Je dis oh, en une semaine t'as le temps de te remettre. Bon,
moi je pense qu'elle a
on
a eu le pif hein. On a eu le pif sur les
elle est un peu cramée je pense hein, là je pense qu'elle a elle est un peu cramos la Céline.
C'est Lucinda qui a eu le pif ouais.
Bravo. bravo. Celle-là, depuis quelle heure tu la prépares? T'as reçu le conduit qu'à 16h, donc depuis 16h05, elle est notée.
Depuis 16h17, je glousse quand je veux la passer.
Bon, un mot quand même des garçons, parce que vous avez voulu mettre la charrue avant les bœufs tout à l'heure et me parler de Nivenhuis, de Renard. Alors allez-y, c'est parti, victoire de Nivenhuis, facile. C'est la confirmation de la très très grande saison de Nivenhuis. Vas-y Anto, les Pays-Bas, c'est toi qui...
J'ai regardé que d'un œil parce que je regardais les courses de la France de l'autre côté, mais c'était balade, c'était chantier, hein. C'était un gros chantier pour les hommes le dimanche. Gros terrain bien lourd, bah, il faut la force dans les reins, il faut du pilotage, bah, tout ce qu'a Nivenhuis, donc démonstration des trois treks. Si ça avait été plus sec, j'étais sur Van der Haar, mais au vu des conditions, j'ai vite déchanté après.
T'inquiète pas, on reparlera de tes paris en fin de podcast.
non, mais oui, c'est la confirmation. C'est la confirmation d'un Nivenhuis. Je peux que j'en discutais l'autre jour. J'ai dit, mais en fait, compte, Nivenhuis, on n'est pas en train de le découvrir, mais en fin de compte, c'est seulement qu'il a fait ça. L'année d'avant, il était arrivé, si tu veux, un peu comme ça, à la fleur au fusil, parce qu'il arrivait de la route et il n'avait pas fait une vraie préparation sur route. Je sais pas qui a un truc derrière qui fait du bruit, là.
Qui c'est que... Moi, j'entends rien, mais.
Si, j'entendais aussi, moi.
Ouais, j'ai un truc derrière. C'est peut-être
moi. Je vais mute.
Ah ouais, bah c'est lui. Bon, bah c'est mieux quand t'es muté. Nivenhuis, je pense que la première année où il a repris le cross à la Baloise, il est arrivé un petit peu en cours de saison de la DSM. Et du coup, il n'avait pas une préparation. Là, on voit clairement qu'il a fait une première année de préparation. Et on est en train de redécouvrir un Nivenhuis. On l'a vu sur la neige du côté de Val d'Isolé. C'était un récital. Et là, il est en train de faire une grosse, grosse saison. Donc, c'est bien, bien mérité. Je suis bien content pour lui. En début de saison, on avait eu un peu peur. Quoi. Il avait eu du mal à gagner. Je ne sais plus laquelle première course où il s'était un peu chié sur la fin. On avait dit, ah, il a peut-être la peur de gagner, un peu de manque de confiance en lui. Là, je trouve que le titre de champion des Pays-Bas, c'est une belle récompense pour lui. Et j'ai hâte de le voir évoluer. Même si, voilà, c'est quand même un mec qui a 28 ans. Donc, bon, je pense que la marge de progression, elle est presque à bout, je pense.
Mais finalement, le cas Nivenhuis, c'est un peu le cas Ventu, le cas Jauregui, le cas Doubet qu'on parlait en début de saison. Hein. C'est un mec qui était champion du monde chez les Espoirs, qui est parti sur la route parce que peut-être qu'il se faisait chier un petit peu en cross à l'époque, enfin je sais pas. Et là, il est revenu à ses premiers amours et finalement, c'est la confirmation.
Bah, c'est un peu un cas à la Chanel aussi. Quoi.
Ouais,
même si tu n'as jamais délaissé le cyclocross, tu es revenu 100% à la fin.
Exactement, exactement. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que de toute façon, pour gagner gagner les 30 secondes qui te séparent du top 10, du top 5, bah, c'est, t'es obligé d'être un crossman à 100%. Et après, ouais, du top 5 au podium, bah, c'est 100% plus un staff. Et puis après, jouer les premières places, bah, c'est 100% crossman, le staff. Et puis, bah, après, les étoiles alignées, comme on dit. Et cette année, c'est vrai que Nieuwenhuis tombe sur des circuits qui lui correspondent plutôt bien. Déjà. Et en plus, bah, je crois qu'il a la confiance. Donc, ça peut être la belle surprise à Tabor si effectivement, comme le disait Olivier dans les messages, c'est enneigé. Parce qu'effectivement, il y aura Van Turenhout et Weezer pour effectivement faire la chose avec Van de Pute. Mais bon, il va se remuter, l'autre, là, le Lionel, on n'entend que lui.
Ouais, il a un son de fond qui est.
Oh là là ! Oh, le pénible ! Je suis en train de parler en plus.
On n'est pas tranquille, quoi.
Non, mais c'est pas possible. Donc, du coup, non, mais Nieuwenhuis, ça peut être la bonne surprise. C'est bon, tu peux reparler.
Tu peux revenir.
Tu me dis, hein, quand j'ai le droit d'intervenir. Je voulais te relancer. Tabor, bon, s'il y a de la neige, si c'est Val di Solebis, on peut imaginer qu'il soit aussi un rival pour Van der Poel ?
Ah, mais complètement. D'ailleurs, je pense même que s'il y a de la neige, rappelez-vous Val di Sol 2021, ou de, oui, 2020 et, non, 2022. Où Van der Poel avait fait sixième sur le verglas, la trouille, machin. Et attention, Tabor, il y a des belles descentes. Tonio connaît le parcours. Hein. T'as vite fait aussi de partir à la faute, de te laisser embarquer par la vitesse. Si on veut du suspense, si on veut qu'il y ait voilà, un petit peu que la course ne soit pas pliée au bout de trois tours parce que Van der Poel va passer les planches et nous faire une relance. Ah, il faut aller brûler un cierge pour qu'il pleuve et qu'il neige et qu'il y ait un petit verglas, un petit -4. Hein. Tu peux reparler.
Non, mais je voulais l'avis d'Anthony. Mais
non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec lui. Après, est-ce qu'on aura autant de. Il faudra regarder si on peut avoir. Oui, de toute façon, tu me diras, on peut avoir la mauvaise météo. Mais je te rejoins carrément sur le fait que à Val di Sole, l'année dernière, il était méconnaissable. Alors, on ne sait pas s'il avait eu peur. Enfin, je crois qu'il l'avait annoncé qu'il n'était pas rassuré. Mais ça pourrait effectivement lancer un petit peu de suspense. Et Nieuwenhuis, de ce qu'il nous a fait voir du côté de Val di Sole, ça pourrait être un sacré client si vraiment c'était verglacé. Là, il y avait de la neige hein, déjà ce week-end hein, pour le championnat de République tchèque.
Ouais, mais... léger, Tonio, léger, ouais, ça a quand même été bien déblayé.
Ouais. Mais bon, est-ce que d'ici là, il peut vraiment y avoir, tu vois, de la grosse neige pour que ça soit comme Val di Sole? Je suis pas spécialement sûr.
1m30 bon. Annoncé apparemment la semaine prochaine. 1m30.
Putain. Je vais prendre mes skis alors parce que on me verra plus. On me verra plus.
1m30, t'es entièrement enseveli. Avant d'abord, il y a quand même deux week-ends, dont celui qui arrive avec Zonebeck et Benidorm. On va passer très vite sur Zonebeck. C'est un Etias Cross. Alors il y aura Merlier qui est le vainqueur sortant. Van Turenhout est annoncé. Je sais pas si c'est crédible, Santo. Il peut faire Zonebeck et partir à Benidorm derrière.
Oh, tout est possible avec un bon avion, mais il a
avec annoncé... SNCF tout est possible, mais
ouais.
Là c'est
SNCF, je suis pas sûr. Je sais pas, Van Turenhout, t'as pas rien à jouer à la Coupe du Monde, est-ce que je sais pas, ça me paraît bizarre. En plus,
il doit y avoir un vol à Bruxelles. Ouais, non mais
là,
soir.
Ils auraient plutôt intérêt. J'ai pas trop scruté les réseaux, mais ils auraient plutôt intérêt à être déjà descendu en Espagne vu le temps de merde qu'on a là sur le nord de la France. Je pense que la Belgique c'est pareil. Je pense que là, ils auraient plutôt intérêt à être partis déjà là-bas, rouler toute la semaine au soleil, et en profiter pour refaire un peu, rouler un peu sous le beau temps, se faire la Coupe du Monde et puis remonter après. Donc, est-ce que Van Turenhout sera à Zonebeck, mais une grosse réserve.
Steve, tu te rappelles de Zonebeck l'année dernière ? Tu revisionnes bien le cross ?
Moi, je sais même pas ce que. Je n'ai jamais vu ce cross-là, je crois.
Oui, je me rappelle très bien. C'est la première victoire de Quickstep.
La première victoire de Soudal.
Mais c'était déjà la veille de Benidorm, non ?
Mais on l'avait commenté avec Jérémy et c'est vrai que j'avais annoncé que c'était la première victoire de Soudal parce qu'ils n'avaient encore pas gagné à San Juan. Parce que San Juan, c'était 15 jours après.
Ah, c'est un des plus gros fous rires de mon univers, ça. C'était exceptionnel. Bon, chez les dames, il y aura Ribeirol, il y aura Baroni, il y aura Hunsinger, donc pas grand-chose à voir. On va swiper, on va aller directement à Benidorm. J'ai envie de mettre les pieds dans le plat tout de suite. Benidorm, ça a été un parcours relativement critiqué l'année dernière. Steve, celui-là aussi, tu t'en rappelles, ouais, évidemment, avec ce final complètement dingue entre les deux ahuris. Si on met de côté le suspense jusqu'au bout et le spectacle qui a été incroyable à 15 jours du mondial, en termes de sécurité, est-ce que tu trouves scandaleux de revenir à Benidorm maintenant après ce qui s'est passé avec ce final très dangereux et puis un parcours global pas forcément typé cross, très roulant, qui a vraiment été qui a suivi de nombreuses critiques.
Alors, deux éléments de réponse. Mon premier élément de réponse par rapport à ce que tu viens de dire, c'est un circuit qui est très roulant, pas forcément typé cross. T'es qui pour dire ça ? Déjà, parce que j'adore. Une balle perdue là. Pan parce qu'en fait, il en faut pour tout le monde.
Il m'a assommé.
Il a raison.
Je te donne pas mon avis. Hein. Je te relaie les critiques qui avaient émané de cette Coupe du Monde.
Oui, c'est un circuit qui est très roulant. Oui, il y a une grosse partie routière, etc. etc. Mais comme je dis toujours, il en faut pour tout le monde. Il faut des parcs à vaches. Il faut des circuits très compliqués. Il faut des citadelles de Namur. Il faut des coccides. Benidorm fait partie de ces circuits ultra roulants. Donc ça, que ça plaise ou non, désolé, mais le cyclocross n'est pas l'athlétisme où on court
ou la
sur
piste.
La même ou la piste où
sinon,
on court
ils
sur la...
Vont faire la piste, ces gens qui sont pas contents.
Sur
c'est la même chose.
C'est toujours c'est tout le temps 250 mètres.
Toujours à gauche.
toujours à gauche et tu peux le faire à Apeldoorn comme en Australie, c'est la même. Donc déjà premièrement. Alors après, en ce qui concerne la sécurité, je pense que c'était une première édition l'année passée et je serais quand même pas surpris de voir une ligne d'arrivée complètement différente, tracée d'une autre manière et une petite modification du circuit. On rappelle quand même que c'est vrai que l'année dernière il n'y avait pas eu d'écart parce que ça avait été très roulant, etc. Mais il y avait eu quand même deux trois petits endroits qui étaient pas très sécures. On sera encore une fois à moins de deux semaines des championnats du monde, on peut pas jouer avec ça. Donc voyons ce que ça va donner. Mais très honnêtement, je serais quand même pas surpris que l'UCI ait dit, écoutez, l'année prochaine, on revient, parce que il faut une Coupe du Monde en Espagne, il faut une Coupe du Monde à Benidorm, parce que c'est un franc succès populaire, soyons clairs, mais je pense que le circuit sera modifié. Tu peux remuter.
Je pense aussi rapidement et je vais vous laisser. Enfin, je vais le laisser continuer parce que la question d'après
est bonne.
Ouais, non, mais on a nos avis partagés là-dessus. Si c'est un vrai, vas-y, continue pour la promotion du cyclocross en Espagne.
Ouais. Pourquoi c'est nécessaire si vous allez à Benidorm?
Je te laisse, c'est cadeau.
Explique-nous pourquoi on retourne
micro,
à Benidorm.
Je coupe mon micro dessus. Je te laisse, c'est cadeau. Je t'écoute.
C'est nécessaire parce que la Coupe du Monde, comme son nom l'indique, c'est la Coupe, ça appartient au monde, à tous les pays. L'Espagne avait la tradition d'accueillir une Coupe du Monde il y a cela 15-20 ans, c'était du côté de Igor. C'est toujours à Igor, dans le Pays Basque, c'était à côté de la frontière française. Et on a délocalisé un petit peu cette Coupe du Monde en l'amenant plus au sud pour aller chercher justement un terrain un petit peu différent. Donc voilà, c'est seulement la deuxième Coupe du Monde à Benidorm. Peut-être que dans l'avenir, il y aura une Coupe du Monde à Barcelone, je ne sais pas, ou dans le nord de l'Espagne. Mais voilà, pour l'instant, c'est Benidorm. Felipe Hort est un excellent ambassadeur de ça. Donc voilà, pour moi, il faut une Coupe du Monde à Benidorm ou en Espagne dans tous les cas.
Pourquoi il ne faut pas une Coupe du Monde à Benidorm, Anto?
Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Attention, là, ne me fais pas dire…
Je n'ai pas dit qu'il fallait
pas de Coupe du Monde aux États-Unis. Je dis juste que, à part Philippe Hors qui est content de courir chez lui et les peut-être 3-4 coureurs qui habitent dans le sud de la France, qui font du cyclocross, qui est content d'aller traverser toute l'Europe à 15 jours des championnats du monde pour aller courir en Espagne. Alors, vous allez me dire oui, ils sont en stage, ça peut leur profiter. Alors, là, ça peut éventuellement s'entendre. Mais après, vous connaissez mon point de vue sur, alors on va me dire oui, mais tu veux que ça soit que la Belgique et les pays. Bah, malheureusement, le truc est plutôt recentré à ce niveau-là. Et là, ça fait à 15 jours d'un championnat du monde. Alors, c'est loin sans être très loin. Mais l'année dernière, alors oui, le circuit, j'espère qu'il va être changé, va être un petit peu critiqué. Moi, je critique pas la partie roulante ou pas, ça, comme l'a dit Steve, et je suis tout à fait d'accord avec lui, l'info pour tout. Je pense qu'il y avait
oui, parce que t'es personne, hein. T'es qui pour critiquer?
Non, mais je suis personne, je suis d'accord. Le fait que ça soit trop roulant, trop machin, trop ceci, trop cela, comme je suis d'accord avec Steve. Maintenant, la sécurité, ça va être un peu limite, notamment une d'arrivée aussi qui était un peu, voilà. Mais bon, faut dire aussi qu'il y avait une chose. C'est quand même que c'est aussi les coureurs qui font la course. Et le final avait été dingue parce qu'ils avaient tous les deux débranchés et qu'ils avaient voulu offrir un spectacle à tout le monde. Maintenant, allez encore, allez, aller en Espagne comme ça, à 15 jours d'un championnat du monde, les Belges et les Français qui habitent tout en haut, ils vont être contents de tout traverser pour aller faire une heure de cyclocross. J'en suis pas persuadé.
Bah, entre nous, une heure de cyclocross, traverser, aller la France pour aller en Espagne, au contraire de faire le Tour d'un Under, femme, trois étapes de moins de 100 bornes. Non mais, je me suis posé quand même la question. On parle de, quand même de alors c'est autre, complètement hors sujet, je suis désolé d'en parler parce que je me suis fait la réflexion. Le Tour d'un Under, femme, trois étapes de moins de 100 bornes, on a fait traverser toutes les équipes européennes pour faire une épreuve World Tour et elles ont fait 3 jours de course. Très honnêtement, parle de sport écologique.
Il y a la Cannes des Vans à la fin du mois, il y a des critériums au milieu. Il n'y a pas que donc, 3 jours de course.
Si tu as des équipes qui vont faire que le Down Under, les équipes pour le tour. Oui ou non?
Ben non, toutes celles qui vont au Down Under, elles enchaînent sur la Cannes des Vans.
Et c'est quand la Cannes des Vans?
C'est le 27.
D'accord, donc là, pour l'instant, elles sont en Australie. Donc depuis le 15, c'est fini. Donc jusqu'au 27, elles restent en Australie.
Mais oui, il y a des critériums. Mais enfin, il faut un peu suivre l'actualité aussi.
Parce qu'en fait, on a parlé d'écologie, je ne sais plus quand, la semaine dernière. Et je disais, oui, le vélo sport écologique. Et on m'a foutu dans la gueule. Ah bah super, t'as vu les gonzesses, moins de 100 bornes de course en Australie pour 3 jours. Et je me suis dit, putain, ils n'ont pas tort. Donc pour les Français et les Belges qui vont en Espagne, bah, c'est une fois dans l'année.
Ne me lance pas sur les courses au bout de la planète, Steve.
Ah, mais tu l'as dit, Tony.
Ne me lance pas là-dessus parce qu'on va vraiment partir hors sujet.
Bon, les gosses, allez, on se recentre sur le vrai sujet.
C'est le la final.
Ouais, parce que c'est le final. On va parler de Wout. Wout qui revient. Alors, moi, j'ai une question pour vous,
mais
messieurs.
Non, viens pas.
Parce que Wout.
Encore une fois que Wout va.
Non, je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question, puis tu vas m'expliquer pourquoi tu n'y crois pas. Mais est-ce que là, au vu du parcours, et parce que Wout sort d'un gros bloc d'entraînement, est-ce qu'on peut pas imaginer le seul vrai duel de l'hiver? Est-ce que là, il n'y a pas toutes les conditions réunies pour avoir un tantinet de spectacle?
Ce week-end à Benidorm?
Ce dimanche.
Je pensais pas que tu allais partir là-dessus.
Si tu avais lu le conduit, tu saurais, mais bon, ça c'est.
Est-ce qu'on va avoir enfin notre duel? J'ai envie de te dire non. Toujours pas, parce que Wout est toujours, je pense, dans son idée, son focus.
Il a juste fait 213 bornes aujourd'hui.
En plus, j'ai pas trop scruté. La dernière fois, j'avais regardé la veille de Bâle ou entre Bâle et je sais plus quoi, il avait fait un truc mais de dingo. Enfin, tu vois bien en fait compte que ça rejoint tout à fait ce qu'on a dit dans les podcasts. En fin de compte, il en a rien à foutre du cyclocross cet hiver. On va pas se le cacher. Quand la veille de Bâle, je crois qu'il va faire 6 heures de vélo avec 50 minutes de footing le matin. C'était le lendemain, je sais plus quel cross qu'il avait fait. Tu vois bien que c'est pas, il s'aligne du côté de Bâle, mais il en a rien à foutre. Tu ne fais pas ça la veille d'un cyclocross.
Alors, je suis d'accord
avec
toi.
Donc là, j'ai envie de te dire.
Anto, dis-moi pourquoi il vient. Parce que là, il est en stage en Espagne, c'est à côté, etc. On est d'accord.
Tu veux qu'on t'organise, pourquoi il vient ?
Non, mais moi, ce que j'aimerais comprendre.
Pour faire des efforts. Pour faire des efforts.
Oui, pour faire des efforts.
Non, mais t'es Wout. Anto. T'es Wout Van Aert. T'es à côté. T'es en Espagne, t'as fait une semaine, etc. Tu sais qu'il te reste un cross qui va être roulant, qui est favorable aux routiers. Est-ce que tu te dis pas, tiens, allez. Histoire de me tester, je le fais à bloc et si jamais je tape Mathieu, bah c'est peut-être aussi l'ascendant psychologique avant les classiques.
Mais se tester de quoi? Se tester de quoi?
Se tester par rapport à Mathieu qui l'a
écrasé. Il n'y a pas eu de test. Est-ce que tu as déjà vu un moment il a pu se tester face à Mathieu?
C'est l'occasion.
Mais non.
C'est l'occasion de te dire.
L'écart, elle est trop importante, Jérémy. Tu peux pas penser à ça.
Moi je pense qu'il peut y penser.
Mais non. On n'a pas vu les mêmes courses cet hiver où ils étaient alignés face à face alors.
Aujourd'hui les mecs ne se testent plus. Quand on vient sur une course, c'est pour gagner. Les seuls qui continuent à prendre les courses en préparation, et d'ailleurs je suis admiratif, c'est Van Aert. Van Aert, je suis complètement d'accord avec Tonio. Finalement, ce qu'il a fait cet hiver, il s'est servi du cyclocross pour mettre un dossard, pour faire des efforts, pour que ça paye pour les classiques, pour ses objectifs du début de saison. Point barre. Là, il est à Benidorm. Il est en stage à Calpe. C'est à côté. Il y a l'occasion de faire déplacer un petit peu les supporters. Il y a l'occasion de faire un petit coup médiatique. Il y a l'occasion de faire des efforts à très haute intensité en compétition. Chose que tu ne fais pas quand tu as l'entraînement. Parce que je le rappelle encore une fois, l'entraînement, c'est pas la course. Même si on a de plus en plus de simulations qui nous laissent penser que les mecs Ils peuvent faire des simulations courses à l'entraînement. Quand tu as un dossard, tu as un dossard. Ça, personne ne l'enlèvera jamais. Donc, je pense que du côté de Van Aert, bien évidemment qu'on va avoir envie de se frotter à Van Der Poel parce que c'est un compétiteur. Et bien évidemment qu'il va prendre une petite volée parce que les risques qu'il faudra prendre, il ne les prendra pas. C'est tout.
Bah moi, je ne suis pas sûr. Tu vois. Et puis, je ne suis pas sûr que Van Der Poel les prenne aussi à 2 semaines du Mondial, même si l'an passé, évidemment, on avait dit ça.
Et les Van Der Poel, il va aller au Mondial sur une jambe s'il n'y a pas de neige.
Jérémy, ouais, mais
s'il n'y a pas de neige, il est sur une jambe. Tu vois, t'as bien vu les courses.
Donc, d'où l'intérêt de prendre moins de risques sur les courses d'avant.
La course de dimanche sera intéressante. Il veut vendre son truc.
Je veux rien vendre. Mais juste
il préfère Van Der Poel. Laisse-le, il préfère Van Der Poel.
Pas du tout. Mais je suis en train de t'expliquer que moi, je crois que ce week-end, Van Aert peut potentiellement l'embêter. Mais moi, la semaine dernière, vous m'avez dit, Lucinda Brandt, elle a aucune chance d'être championne des Pays-Bas. Donc là, le fait que vous me disiez Van Der Poel, il a aucune chance de gagner, ça
va. Il va mettre son PEL sur Wood, du coup. Van Aert.
Impossible. Bon, il y a la team qui est là. Je pense qu'il voulait réagir à ce débat.
Il a dû analyser chaque centimètre de sniper de Benidorm.
Le sniper.
Notre Laurent Maffi.
Bonsoir les gars.
Vas-y la team.
Bonsoir. Je vais te retourner la question, Jérémy, puisque nos deux comparses t'ont répondu et t'ont répondu formidablement bien. Est-ce que Wout, qui loge actuellement à 35 km de Benidorm, se serait aligné sur ce cross? Si justement il n'avait pas été aussi prêt.
Bah, jamais de la vie.
Voilà. Et pourquoi il vient? Parce que c'est à 35 km et qu'à 35 km, bah, il a 25K à ramasser au départ. Donc allez.
Wout, il est renseigné sur les sommes.
Moi, j'ai pas dit le contraire. J'ai juste relevé le fait que là, on avait potentiellement pour la première fois de l'hiver des conditions plus favorables pour qu'il puisse.
Oui, mais parce que le circuit est roulant. Mais on l'a vu l'année dernière. Si on reprend le circuit, où est-ce que Wout peut battre Mathieu sur ce circuit, en sachant que à la fin, s'ils arrivent ensemble, allez, avant le dernier virage, t'en as deux, puis t'as des planches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut que Wout arrive avant les planches. Il faut qu'il arrive en tête avant les planches pour anticiper ses virages. Sinon, Mathieu a le dessus sur lui, que ce soit sur les planches, que ce soit dans la technicité des virages. Parce que si le mec qui est en tête a gagné. Donc, où est-ce que Wout peut gagner?
Et pourquoi il pourrait pas se présenter en premier sur les planches?
Bah, parce que le terrain est trop. Benidorm, ça a beau être roulant, t'as quelques portions qui sont d'abord techniques. Mathieu, cette année, techniquement, il est supérieur. Et il y a quelques portions qui sont quand même assez explosives. Je sais pas si tu te rappelles le premier tour, juste avant, juste après le petit replat bitumé. Le petit faux plat montant. T'as un petit faux plat aussi juste avant la portion boisée où la Pidcock avait attaqué. Donc c'est là où Mathieu doit miser sur son explosivité, s'isoler, prendre de l'avance et mine de rien peut-être prendre un petit matelas, parce que s'il y a un problème, je suis pas sûr que. En fait, c'est là où Wout peut avoir un espoir. C'est si Mathieu subit un problème technique, parce que ça me paraît quand même compliqué de pouvoir remonter. Un écart de 30 secondes.
Bon, tu as fini par m'expliquer que c'est possible, en fait.
Bah, c'est possible sur un incident technique, quoi.
Tim, il connaît quand même mieux le circuit de Benidorm que moi. Il a parlé chaque faux plat de virage et tout. Moi, à part la ligne d'arrivée qui est un peu en virage, tout ce que
Non, mais il y a ce long faux plat sur l'espèce de voie cyclable. Il a raison, Tim.
Oui,
il y a, tu sais, il y a la longue passage, bosse. D'ailleurs, c'est même très, très long et tu passes un rond-point au-dessus avant d'aller dans le bois. Mais
je me souviens que c'était pas mal sur du stabilisé aussi, tu sais, du petit chemin un peu stabilisé, un peu bien fuyant.
Ils descendent dans un bois après.
Je vois ce virage droite là où ils redescendent, qui était pas mal fuyant. Je vois pas un Van Aert pas au top de sa forme aller prendre des risques, tu vois, sur un truc comme ça. Non, moi franchement
il prendra pas de risque. Il prendra 25K.
Sur 25, j'ai abusé, c'est 20K.
Bon, peut-être 25 ou 30.
25, hein. C'était Steve, mais Van Aert, c'est un peu moins.
Centimes.
25 centimes. Bon, un mot des dames quand même. À quoi t'as s'attendre pour ce week-end?
Si elles sont en Australie, elles n'ont pas intérêt de revenir, je te le dis moi.
On peut arrêter avec l'Australie, ça n'a rien à voir l'Australie. Parle-nous du retour de Van Empel plutôt.
Bah écoute, on va voir comment va se passer son retour, mais je pense qu'elle a effectué une grosse période pour arriver en forme là, à moins de 15 jours des championnats du monde. Techniquement, comme je l'ai dit depuis le début de saison, elle est quand même plutôt balèze sur les prises de trajectoire, et quand ça roule vite, c'est son point fort, on le sait aussi. Pour moi, Van Empel doit gagner à Benidorm pour accumuler le max de confiance, mais attention, je pense qu'il va y avoir une très très belle course chez les filles, et ça me paraît très important pour Van Empel de tout de suite remarquer son territoire avec le mode champion du monde.
Ouais, plutôt d'accord avec toi. En plus, mais elle va revenir effectivement de stage, mais en plus elle revient aussi avec le mental à 100%. Elle reste sur deux victoires à Bâle et à Coxside. Attention Lucinda Brandt qui moi là me fait très bonne impression. Elle marchait fort à Zonhoven, bon elle se cabane, mais elle marchait très fort au championnat. Attention, on en parlait la semaine dernière justement, où il y a 15 jours je crois on en parlait, on disait attention à elle du côté, je crois que c'est même avec Olivier on en parlait, on disait attention à elle quand même du côté de Tabor.
Ah, tu l'as dit.
moi j'aimerais bien avoir un match à la régulière pour qu'on se fasse une idée. Là on va être à 15 jours, il n'y aura plus qu'Ogerheim après. Je suis impatient, c'est vrai que là je suis autant les hommes, voilà, je vais pas essayer de vendre un truc, mais autant chez les femmes, je pense que, on l'a déjà dit aussi, je pense que les femmes, les courses femmes vont être un peu plus intéressantes là pour les week-ends à suivre.
Peter, ça peut être pas mal aussi, hein, parce que ouais, ça reste, non mais ça roule vite, mais t'as quand même pas mal de petits virages, de petites relances, t'as ce passage des planches et t'as mine de rien, si t'anticipes un peu, le passage bac à sable, hein, c'est un bac à sable qui se prend avec aucune vitesse. Hein. T'as un virage juste avant, donc est-ce que en prenant un peu d'avance là, elle peut tirer son épingle du jeu, peut-être.
Ouais, c'est ouais. Vrai, pas faux. Après, quand on regarde un petit peu comme ça par rapport, allez, on va dire circuit rapide, plutôt approprié à Van Empel, circuit très technique et plutôt glissant, plutôt du côté de Peters. Voilà, il y a Lucinda Brandt, à voir. Mais c'est vrai que ça va être une belle course chez les filles. Et attention également, peut-être, hein, je dis bien peut-être à Saint-Nécante. Hein.
Tu n'as pas cru à ce que j'ai dit.
Pas du tout, mais juste avant les paris, je me t'ai induit en erreur.
Je me demandais qui allait surenchérir sur cette dinguerie. Tu l'as fait tout seul, c'est bien. Et c'est toi qui vas ouvrir le bal des paris pour la peine.
On peut.
On rappelle quand même la performance d'Anthony la semaine dernière qui nous a annoncé donc le titre de Puck Peter, c'est celui de Lars van der Haar. Vous avez bien compris, c'est un 0 sur 2.
Mais qui avait parié d'autre avec moi?
Gilou. Gilou, il avait parié sur la Belgique. Hein. Il avait parié sur la Belgique, alors il avait perdu chez les dames.
On peut pas parier, faut pas essayer sur la même course déjà, parce que du coup ça fausse.
Oui, ça fausse, mais il avait quand même parié sur la Belgique et il avait quand même le titre d'Iserbit, donc ça fait toujours
un... Ouais, mais moi j'avais quand même annoncé Saint-Nécante chez les dames.
Ok, tu avais, mais à la fin tu as perdu, donc on va repartir de zéro cette semaine, concentre-toi, mais on va d'abord écouter Steve.
Mm-hmm. Sur Zonnebeck ou sur Benidorm?
Non, Benidorm.
Sur Benidorm. C'est le 13e podcast, tu sais toujours pas comment on fonctionne. On choisit une des deux courses, de préférence la Coupe du Monde.
Ok, je vais prendre un gros risque. Je vais dire victoire de Van Der Poel. C'est les garçons.
Non mais ça marche pas.
Couplé.
Non mais ça marche pas.
Couplé.
On n'accepte pas et il faut que ce soit des paris un minimum audacieux.
Top 5 ventu. Top 5 ventu.
Mais il est sur la startlist, Thomas.
Je sais même pas s'il avait réussi.
Moi, j'ai
réussi. Il est en stage avec Arkea. Oui, il est en stage avec Arkea.
Il est sur la startlist numéro 23.
Exactement.
Il a le numéro de Jordan. Je confirme. Donc, okay. Je dis top 5 ventu. Et chez les dames, je vais dire victoire de Van Empel. Mais comme c'est presque du cousin aussi, je vais mettre... top 10 de Betsema.
Ah mais attends, c'est quoi ces combis qu'il fait,
lui? Il se fout de nous. Il se fout de nous.
Quel bookmaker propose ça? Le gars, il a vu 15... Mais la startiste entière aussi pendant que tu es...
top 30, Hélène Clausel.
Non, mais il se fout de nous, celui-là.
Je joue juste top 5 ventu. Top 5 ventu.
C'est tout.
Ouais, Van Empel. Comme ça,
et Van Empel gagnant.
Van Empel, ça marchera pas. Ouais, alors je suis bien content.
Voilà, si jamais ça paume à cause de Van Empel, tu l'auras dans l'os. À toi, Anthony.
Alors moi, je vais jouer T3 de Brandt.
Oh bah, c'est coté aussi, ça.
Avec toi aussi, le... tu nous prends pour des idiots. Hein. Toi aussi, c'est limite. Hein. Avec... Tu veux qui devant? C'est Alvarado, elle sucre les fraises. Au pire, elle finit derrière Peter, c'est Van Empel.
On ne sait pas.
Anthony,
attention, attention quand même à Denis.
parce que elle veut quitter l'Arabie Saoudite.
Anto, t'es un fan de Booba ou pas? Parce que visiblement, t'es un pirate.
Bien sûr que la piraterie n'est jamais finie.
Ouais, t'as intérêt à être audacieux sur ton pari chez les mecs, hein, parce et que ben, je peux pas
combiner ça. Je vais combiner avec un T3 10 Herbite.
Oh, oh là là.
top 10 de Felipe Horst.
La cote, tu veux que je te donne la cote? Elle est à 1,14 pour ton
combiné. La cote que t'inventes à chaque fois. Parce que t'as
5 en point bête, 1,14. Je serai intransigeant sur la cote. La team, à toi.
Bah, tu veux quelqu'un qui a des burnes, enfin?
Ah oui.
Ah. Oui, mais quelqu'un qui soit poli de préférence.
Burn, c'est poli. Hein.
Non. Alors chez les femmes, victoire de Puck Peters, c'est chez les hommes deuxième place de Etherbeat.
Oh. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Et bah, c'est noté.
Toi, Jérémy, alors le gars, deuxième place d'Etherbeat, vous aimez bien. Par contre, mon T3 Etherbeat, vous aimez pas.
Eh ben oui, parce qu'il se mouille, il sera devant Van Aert d'après la type. C'est ça la.
Exactement.
Bah moi aussi. Ah bah moi aussi dans ces cas-là, mais je voyais pas. C'était pas Van Aert le client que je voyais moi, en face de lui, mais bon.
Bah moi, je fais qu'un seul pari. Pour une fois, je vais le faire. Je vais le tenter.
Tu joues ça y est.
Je vais le tenter. Moi, je vais vous dire un truc. Van Aert, il arrive dans le même temps que Van Der Poel. Voilà, je vous le dis, je vous le donne. Vous pourriez pas dire que vous le saviez pas.
Oh, il y reste sur son truc. Hein.
Exactement. C'est dommage, j'ai perdu d'avance. Quoi.
La dimanche,
ouais, c'est toi qui es au commentaire dimanche, non?
Pas du tout.
Tu viens de nous vendre un truc de.
Non, ce sera Steve avec Antoine Besson, donc rien à voir avec ça. C'est un petit pari que je tente comme ça. Puis là, la cote, elle n'est pas 1,14, hein, je peux te le dire.
Mais là, 1,48.
Allez, messieurs, il est 20h02, hein, on a passé la limite. Rendez-vous la semaine prochaine.
Et nous rendons les studios.
Ça. Ça va, les studios, effectivement, faut
salut,
libérer pour le
Salut.
Allez, bye. Ciao.
Salut, Tonio. Ciao.
Et salut, merci, team. Olivier. Hein, super
merci,
intervention.
Olivier. Merci, super, Olivier. Le train. Merci, le train. Le train allez. Rentre en gare à Bruxelles, Charleroi. Bonne soirée allez, à salut. Tous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.